Bonjour à toutes et à tous. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur nous. Nous sommes là pour le glorifier, pour l'honorer, et nous allons le faire en lisant sa parole. Et ce matin, je vais vous inviter à lire un passage en presque tous les chapitres dans le deuxième livre des rois, chapitre 4. Nous allons lire tout ça parce qu'il y a, pas mal d'enseignements pour nous. Alors, 2 Rois, chapitre 4. On va lire à partir du verset 18. Il s'agit du prophète Élisée qui est au contact avec cette femme tsunamite. Au verset 18, voilà, il lui a donné un enfant. Et au verset 18. L'enfant, il a grandi, et un jour qui était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta les coucher sur le lit de l'homme de Dieu, c'est Élisée, ce qu'il avait préparé une chambre pour Élisée. Hein? Lorsqu'il faisait les voyages, il avait préparé cette chambre. Élisée, il allait toujours rendre visite et coucher à cet endroit. 22. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni la nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici la tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, « Ne me trompe pas ?» Élisée dit à Géasi, Saint Erin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant, mais il n'y a eu ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette tsunamite. Gehazi l'appela et elle vint vers Élisée, qui dit « Prends ton fils ». Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? C'est une belle histoire. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur il veut nous parler. Mais mon message, il s'est mis surtout sur le verset 31. Hein? Sur le verset 31, c'est à propos du serviteur. Voilà ce qu'il dit, 31. Gehazi les avait dévancés, c'est-à-dire Élisée et la femme de l'enfant. Il s'éleva, et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attente. Il ne s'est pas réveillé. Les bâtons de qui? Les bâtons d'Élisée. C'est Élisée qui lui a dit ça. Hein? Vous savez pourquoi il n'y a eu pas de réplique? Justement parce que Gehazi, il a appliqué une méthode. C'est-à-dire qu'il avait vu plusieurs fois Élisée utiliser les bâtons. Donc les bâtons, c'était quelque chose que Élisée utilisait pour accomplir des miracles. Hein? Et il a utilisé cette même méthode. Mais pour que Dieu il intervienne, pour que Dieu il accomplisse des miracles, il y a des qualités que celui qui possède les bâtons que Dieu il a donné, il faut des qualités spéciales. Les bâtons, c'est quelque chose que Dieu il a donné. Vous en souvenez, Moïse, il était là prostré devant le buisson ardent. Et il a dit, va et délivre mon peuple. Et il a dit, mais comment veux-tu que j'aille en Égypte et je délivre ton peuple? Il a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Ben, j'ai un bâton. Mais alors, utilise le bâton. Et c'est ce qu'il a fait, hein, avec la mer rouge, hein, avec les serpents devant les pharaons, n'est-ce pas? Voilà, il a utilisé ces choses-là. Et donc, le bâton, ce n'est pas utiliser toujours la même méthode, mais celui qui l'utilise, il faut qu'il ait des qualités spirituelles. Pourquoi? Parce que c'est cela que Dieu recherche. Et ici, dans cette histoire, une des qualités, il y en a sept, j'en ai choisi sept, les qualités spirituelles que quelqu'un doit avoir pour que Dieu il puisse l'utiliser et que Dieu, à travers lui, il puisse accomplir des grandes choses. Nous ne sommes rien, mais nous avons un grand Dieu. Et nous savons que Dieu, avec un rien, il peut faire des grandes choses. La première qualité spirituelle pour que Dieu accomplisse les miracles, c'est-à-dire cet enfant, il était mort. Et il est venu là pour le ramener à la vie. Alors, pour que Dieu il accomplisse cela, il faut avoir reçu l'Esprit de Dieu. On en a parlé ce matin. Élisée, l'Esprit de Dieu. Vous en souvenez, Élisée, c'était le serviteur d'Élie. Vous savez qu'Élie, il a été enlevé auprès du Seigneur. Et alors, Élisée, il lui a dit, écoute, je ne te laisse pas, je veux rester constamment avec toi, je ne t'abandonne pas. Mais il a dit, donne-moi le double de ton esprit. Voilà. Voilà. Et le Seigneur, il lui a donné. Parce qu'il a vu, il est resté avec Élie. D'ailleurs, Élie, il a fait 7 miracles. Et Élisée, qui a demandé le double de l'esprit, il a fait 14 miracles. Alors, la qualité spirituelle, c'est avoir reçu l'esprit de Dieu. Comment est-ce qu'on reçoit l'esprit de Dieu? Il faut être converti. Ça, c'est la première qualité pour que Dieu puisse utiliser. Deuxième qualité, c'est qu'il faut avoir une conduite sainte. Et cette femme, si vous avez remarqué au verset 9, hein, cette femme, il dit qu'il y ait sur... Je sais, il dit cette femme, que cet homme qui passe toujours chez nous, c'est Élisée, est un saint homme de Dieu. Une vie sainte. Lorsqu'on a une vie sainte, les autres qui sont autour de nous, ils voient. Parce qu'on se comporte différemment, on agit différemment, on parle différemment, on vit différemment de ceux qui sont dans le monde, de ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une deuxième qualité. Il y a une troisième qualité, il faut être animé de compassion. Il faut animer de compassion. Élisée, il était rempli de compassion, tandis que Gehazi, non. Pourquoi on dit ça? Parce qu'au verset 27, hein, regardez ce qu'on vient de lire, hein, il dit, « Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Gehazi s'approcha pour la repousser. » Aucune compassion. Élisée, c'était quelqu'un rempli de compassion. D'ailleurs, il le dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. » Et c'est ce que le Seigneur Jésus, il a fait, n'est-ce pas, pendant son ministère. Chaque fois, il nous dit « ému de compassion ». C'est ce qu'il a fait, le Seigneur Jésus. Et c'est une qualité spirituelle que nous devons avoir, la compassion envers tous ceux qui nous entourent. Regardez la misère, comme il a dit les frères, cette banque alimentaire qu'on a instituée il y a quelque temps. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Merci Seigneur pour ceux qui n'ont pas ce besoin. Mais il y a des frères et sœurs qui sont dans le besoin. Les temps, ils sont durs en ce moment. Et ce que, si nous avons des possibilités, nous devons penser à ceux qui n'en ont pas. Voilà pourquoi je dis aux frères d'avertir que la banque a été épuisée, c'est-à-dire qu'on a tout donné. Il y a des frères et sœurs dans l'Église qui sont dans le besoin. Et c'est à nous de pourvoir, parce qu'ils sont nos frères et sœurs. Le Seigneur nous dit d'utiliser les moyens, les richesses qu'il nous donne pour que tous ceux qui sont autour de nous, ils puissent avoir de quoi vivre. Et ce serviteur, il n'avait pas de compassion. Il l'a repoussé, un peu comme les disciples. Vous savez, les disciples aussi, ils ont fait ça. Hein. Ils s'approchaient de Jésus et ils les repoussaient. Et Jésus, il a dit, « Laissez venir à moi les enfants. » C'est ça que le Seigneur nous demande, d'avoir la compassion tout autour. Si on a ces qualités spirituelles, le Seigneur, il va nous mettre dans des situations dans lesquelles nous allons accomplir des grandes choses. Voilà la compassion. Hein? Il y a tant de gens qui sont dans les besoins. Alors, cette qualité. Une autre qualité qu'on voit dans c'est que Élisée, il a prié avec foi. Gehazi, il a fait quoi? Il est arrivé et il a mis les bâtons sur le jeune enfant en croyant que, ben voilà, paf, hein, il va se relever tout de suite. Non. Élisée, il a prié. Verset 33. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que la prière, c'est une grande utilité. Et c'est d'une grande force que le Seigneur nous a donnée. Un chrétien qui ne prie pas, il ne respire pas. Le Seigneur, il dit, demandez, cherchez, frappez. Tout ça, c'est la prière. Élisée, c'est la première chose qu'il a fait. Il est rentré dans la chambre, et il a fermé la porte. Lorsque tu pries, le Seigneur Jésus, il nous l'a dit, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte, Ton père est là. Pourquoi fermer la porte? Parce qu'on est tellement dérangé par tant de choses. Et les téléphones qui vibrent, ou sinon des gens qui nous appellent. Lorsqu'on est en contact avec ce Seigneur, il n'y a rien qui doit casser cette communion. Ce coup de fil que nous demandons au Seigneur. Et comme il a dit quelqu'un, Dieu, il n'est jamais occupé. Les téléphones de Dieu, ils ne sont jamais occupés. Lorsqu'on sonne, il répond. Il répond. Voilà une autre qualité. Il a prié avec foi. Une cinquième qualité, on la voit encore au verset 34. Une cinquième qualité, c'est de rentrer en contact. Rentrer en contact, toi-même. Il nous est dit, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Il a établi un contact. C'est un peu comme nous, lorsque nous sortons évangéliser, lorsque nous sortons pour témoigner. Nous devons avoir un contact. S'il n'y a pas de contact, ça ne passe pas. Les gens, ils doivent voir en nous ce que nous apportons. Voilà pourquoi, encore une fois, c'est une qualité spirituelle, le contact. Et pas se dire, non, celui-là, je ne le vois pas, hein. Je lui dis, je témoigne pas, je n'évangélise pas. Nous ne savons pas ce que Dieu a préparé. Si Dieu nous dit va, nous devons aller. Le frère nous a parlé de l'Éthiopien et Philippe, n'est-ce pas? Philippe, qu'il était en Samarie, il faisait de grandes choses. Il évangélisait partout. Il était dans une grande ville. Des gens, il s'est tourné vers le Seigneur. Et l'Esprit le prend et il l'amène dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien. Mais pourquoi tu m'as amené ici, Seigneur? J'étais en train d'évangéliser. Il y avait des gens qui s'est tournés vers toi. Et pas fait de loin, il arriva en char. Mais ce char, c'était l'Éthiopien. Le Seigneur, il l'a enlevé de la ville et il l'a transporté dans le désert parce qu'il y avait quelque chose à faire. Il y a eu le contact et c'est là qu'il a regardé, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, mais je lis Esaïe, mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Ben, je comprends, je lis et il n'y a personne pour m'expliquer. Bah, il est monté et il lui a expliqué, il y a eu le contact. C'est une qualité spirituelle que nous devons avoir pour que le Seigneur puisse agir, car c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Une sixième qualité spirituelle, hein, au verset 34, hein, il nous est dit, une fois qu'il a eu ses contacts, il nous est dit, et la chair de l'enfant se réchauffa. Se réchauffa. C'est-à-dire qu'il faut savoir communiquer notre foi, savoir ce que nous apportons, savoir et montrer à ceux qui nous écoutent, à celui avec auquel on a le contact, que ce que nous lui apportons, il peut lui amener la vie. C'est ça ce qu'il nous dit ici, hein? Il a su passer Élisée en se mettant sous l'enfant. La chaleur de Dieu qu'il était en lui, il l'a fait passer sur cet enfant. Et ensuite, il est parti. Le corps, il n'était plus froid, mais il était chaud. Mais il était encore endormi, mais il était chaud. Il est parti. Ensuite, il est revenu. Et c'est ici la septième qualité spirituelle. Il nous est dit, au verset 35, Élisée s'éloigna, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. C'est la persévérance. C'est la persévérance. Ça ne suffit pas de dire, tiens, j'ai témoigné à Jean-Pierre, il faut qu'il se convertisse. Jean-Pierre, il peut dire non. Mais il faut continuer, il faut persévérer. Et c'est ce qu'il a fait, Élisée. Et cette chaleur qui déjà il avait commencé, voilà, l'enfant, elle se réveillait, il a éternué. Voilà, ça voulait dire qu'il est passé de la mort à la vie. Et il l'a donné à sa mère. Il a dit, voilà ton enfant. C'est ça ce qu'il nous enseigne, cet événement. Qu'il faut avoir des qualités spirituelles pour que le Seigneur puisse nous utiliser. Pourquoi Gehazi n'a pas eu toutes ces choses-là? Parce qu'il ne les possédait pas. Il mettait toute sa foi, pas dans ses qualités spirituelles, mais il mettait toute sa foi, il le mettait dans les bâtons. Dans les bâtons. C'est ça. Mais les bâtons, il n'est rien s'il n'y a pas quelque chose qui suit. Beaucoup de gens, même dans la parole de Dieu, beaucoup ils disent, ah, la Bible. Mais la Bible n'apporte rien si on ne met pas en pratique. C'est pas une idole. Un peu comme les serpents de rein. Vous en souvenez, les serpents de rein dans le désert. Il y a eu des serpents qui sont venus et ils ont mordu les Israélites. Ils ont été auprès de Moïse. Et Moïse, il a intercédé. Et Dieu, il a dit, construis un serpent de rein. Et tous ceux qui regarderont ces serpents, et ils ont été mordus, ils guériront. Ils auront la vie. Alors, comme ce serpent, il avait donné la vie, ils ont gardé ce serpent pendant 300 ans. Ils les ont gardés et ils l'ont vénéré. Un peu comme aujourd'hui, vous rentrez dans les églises, et il y a les statues de la Sainte Vierge, il y a les statues de Saint-Pierre, de Saint-Paul, et tout ça, on se prosterne, on le bisouille, et tout ça. Ce n'est rien, tout ça. D'ailleurs, 300 ans après, Dieu, il a dit, détruis-moi tout ça, parce qu'on ne doit pas mettre notre foi sur un objet, mais notre foi, elle va sur Dieu. Et Gehazi, lui, il avait vu la méthode. Voilà, Élisée, il fait ça, et il doit se réveiller. Il met les bâtons, mais maître, c'est pas réveillé. Mais non, c'est pas réveillé. Voilà pourquoi, et ces bâtons, il m'a parlé, et j'espère qu'il vous parle aussi. Quel est le bâton sur lequel nous mettons notre foi? Quel est le bâton? Peut-être que c'est les bâtons de l'éducation religieuse. Voilà, j'ai reçu une éducation religieuse. Vous en souvenez de Nicodème? Nicodème, c'était un homme religieux. Il croyait que, et Jésus il a dit, écoute, hein, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas. Mais comment je suis religieux, moi? Il s'est confié sur la religiosité. Mais Jésus l'a dit non. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne rentreras pas dans le royaume. C'est ça que le Seigneur il nous dit. Hein? Croire, ça ne suffit pas. Il faut mettre toute cette foi qu'on a en ce que Dieu nous dit dans sa parole. Il y a un autre bâton sur lequel beaucoup se confient, c'est les prières. Voilà. J'ai prié Dieu. J'ai prié que Dieu il me donne ça et ça parce que, voilà, il a promis. Mais comment il est ton cœur? Comment il est ton cœur? C'est ça. Et le Seigneur, il nous l'a dit, le riche qui disait, voilà, j'ai observé toutes ces choses-là. Et Jésus lui a dit, ah bon, tu les as observées, tu connais. Va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Ah, là. Et pourtant, il a dit, j'ai observé tout ça. J'ai prié, j'ai fait tout ça. Est-ce que c'est le bâton de la prière sur lequel vous avez mis votre confiance? Ou sinon, les bonnes œuvres. Voilà. Les bâtons des bonnes œuvres. J'ai fait des bonnes œuvres, donc Dieu, il me doit. Dieu, il doit intervenir. Les bonnes œuvres, c'est Dieu qui les prépare. Pour qui il les prépare? Pour ses enfants, pour ceux qui sont à son service. Une bonne œuvre, c'est Dieu qui déclare qu'il est bonne ou mauvaise. C'est pas à l'homme. Les gens, ils disent, j'ai fait des bonnes œuvres, donc Dieu, il me doit. Il doit venir à mon secours. C'est pas comme ça que ça marche. Hein? Mettre notre foi sur ce qu'on a fait, et donc automatiquement recevoir. Parce que j'ai donné. Il y a beaucoup qui donnent beaucoup d'argent aux églises. Et même l'église, en remerciement, ils leur mettent des petites plaques là. Voilà, telle personne, il a donné 1 million, 2 millions. Il y a des sièges qui sont réservés, le premier siège là, voilà. Siège réservé, quand ils arrivent, bon, voilà, le siège c'est à lui. C'est pas ça que Dieu veut. Voilà, est-ce que notre bâton, c'est celui-là, les bonnes œuvres. Il y a aussi le bâton de notre entourage religieux. Ah, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai toujours entendu parler de la Bible. Je vais au culte. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes sauvés. Hein? Il ne vous apporte à rien être né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans une famille chrétienne que vous êtes chrétien. On devient chrétien lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ. Voilà le... ce que le Seigneur il désire nous dire en toutes ces choses-là. Un autre bâton sur lequel on met beaucoup de confiance, c'est le bâton de l'appartenance à l'Église. Ah, moi je fais partie de l'Église biblique baptiste argentée. Je suis sauvé. Voilà. C'est pas ça qui nous sauve. Hein? La seule chose qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Et il faut regarder aussi l'Église. Il y a beaucoup qui disent, ouais, les grandes églises, 200, 300, 400, ça c'est une bonne église. Mais vous savez que ce n'est pas la vue du Seigneur, ça. Nombreux, une grande église, nombreux. Vous en souvenez lorsque les apôtres, en regardant Jérusalem, ils ont demandé quoi au Seigneur? Il a dit, regarde Jérusalem, regarde les temples, regarde les beaux monuments et tout ça. Ils se sont extasiés. Quelle a été la réponse de Jésus? Ah oui, c'est vrai. Hein? Non, il a dit, vous voyez toutes ces choses-là? Il ne restera pierre sur pierre de tout ça. 70 ans après, il n'y a plus rien qui est resté. Ce n'est pas ce qui frappe à nos yeux qui va rester, mais ce qui touche le cœur de Dieu. Paul, il nous donne un autre exemple dans Actes 19, lorsqu'il arrive à Athènes. Athènes, c'était une métropole connue pour ses grands monuments, pour ses grands temples, tout ça. Mais Paul ne s'est pas concentré sur ces choses-là qu'il voyait. La chose qui l'a touché à Paul, c'est qu'il a vu plein de statues des divinités. C'est ce qu'il cherche, c'est ce qui intéresse Dieu, c'est lui. Paul, il n'a pas regardé toutes ces belles choses autour de lui, mais il a regardé qu'il y avait de l'idolâtrie. Ce que Dieu regarde dans une église, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. On peut avoir une église de 200 personnes, 300 personnes, mais il n'y a pas de disciples. Le Seigneur, il a dit, allez et faites des disciples. Il n'a pas dit de faire des nombres. Hein? Demeure à church, comme ils disent les Américains. Il y a des églises de 2000, 3000, 4000, 5000. Je parle en Amérique, ici c'est rare. Hein? Ici, non, mais les gens, des fois, ils se disent, ah, c'est une grande église, 150 personnes, 200 personnes. Ce qui frappe Dieu, c'est la qualité de ceux qui sont là. On peut être 300 ou 400, mais il n'y a pas de disciples, il n'y a pas de gens qui suivent. Ça n'intéresse pas Dieu, ça. Ce qui lui intéresse, c'est des disciples. Faites des disciples. Pourquoi des disciples? Parce que ces disciples, ils doivent aller et faire d'autres disciples. C'est ça qui intéresse Dieu. Pas les grandes églises. pas la quantité, mais la qualité. Voilà ce qui intéresse Dieu. Avoir une petite église, mais que tous, ils soient des disciples, que tous avancent, qu'ensemble on aille témoigner, évangéliser, qu'on fasse tout pour que la gloire de Dieu il puisse éclater ici dans cette ville d'Argenteuil. Mais si on est 150, si on est 200 et on ne fait rien, il n'y a personne aux études bibliques, il n'y a personne aux réunions de prière, il n'y a personne lorsqu'on organise quelque chose. Ça, ce n'est pas l'Église de Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à ces choses-là. Il prend plaisir lorsqu'il y a des gens qui se donnent à fond, comme lui, il a fait en donnant son Fils, Jésus-Christ. Voilà ces choses-là qu'il faut... Et aussi, il y a les bâtons de la connaissance de l'Écriture. Voilà. Ah, je connais l'Écriture, moi. Voilà. Je connais ce que dit la Bible, la réunion, mais pourquoi aller? Je connais. Alors, je reste tranquillement à la maison. Voilà. Dieu, il nous le dit clairement, il nous dit, cherche-moi et je te révélerai des grandes choses. On n'a jamais la connaissance dont on a besoin. Plus on étudie la Bible, plus on la médite et plus Dieu il nous révèle de merveilles. Cherche-moi et je te révélerai des trésors. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à lire un verset que vous avez lu un million de fois, un exemple, ça n'est jamais arrivé un million de fois. Hein. Il ne vous a jamais parlé. Mais un jour, paf, vous le lisez, et Dieu il vous révèle ce qu'il veut dire. Alors vous dites... Ah, Seigneur, merci. Ça ne vous est pas arrivé, ça? C'est ça que le Seigneur recherche. Hein? Les bâtons de la connaissance. Voilà toutes ces choses-là. Et c'est ça ma question pour terminer mon message. Quel est le bâton de notre vie qui nous empêche d'être utilisés par Dieu? Car encore une fois, on n'est rien. Mais si on fait confiance en Dieu, en ce grand Dieu que nous avons, il va accomplir des grandes choses. C'est ce que Jésus il avait dit aux disciples. Il a dit, vous ferez des plus grandes choses que moi j'ai fait. Il a dit Pierre, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, il reçoit le Saint-Esprit, il prêche. 3000 âmes, ils se sont convertis. Jamais Jésus, il a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui cette puissance de l'Esprit, cette envie de témoigner. Voilà ce que nous devons faire aussi. Et pas être comme Gehazi, qu'il s'est confié juste dans les moyens. Il faut se confier sur Dieu et en Dieu seulement. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très important pour chacun de nous, pour nous qui sommes des chrétiens, de faire confiance qu'en Dieu. Oh, la chose n'est pas facile, mais on a un grand Dieu. Et si nous nous confions en lui, Dieu, il peut faire encore une fois des grandes choses. Je me répète, hein, mais c'est exactement la vérité, ça. Nous ne sommes rien. Mais Dieu, à travers nous, il peut faire de grandes choses. Ce n'est pas nous qui les faisons, mais c'est Dieu qui nous utilise. Et toute la gloire, il doit revenir à Dieu. Donc voilà la question que j'aimerais vous laisser ce matin. Quel est le bâton qui vous empêche de vous donner entièrement à Dieu? Que le Seigneur nous aide à regarder au plus profond de nous-mêmes. Car c'est des questions importantes. Cet enfant-là, il est revenu à la vie parce que Élisée, il avait ses qualités. Et si nous n'arrivons pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. C'est que nous mettons que nous donnons plus d'importance à certaines choses que donner l'importance à Dieu. Dieu, il veut toute la place et pas un petit coin dans notre cœur. Voilà, tu ne rentres pas là-dedans. C'est moi là qui dirige ma vie. Non, il faut donner toute la place à Dieu. Pourquoi? Mais parce que Dieu, il a tout donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. son fils unique. Et si nous mettons en pratique toutes ces choses-là, nous allons voir des grandes choses réalisées dans nos vies. Donc à chacun de nous, de réfléchir à cela et dire, quel est le bâton qui m'empêche? Et confions-nous en Dieu, pas dans les moyens, mais en ce que Dieu nous donne, par cet esprit qui a placé en nous. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole, car ta parole est la vérité. Oui, Seigneur, merci, car ce message, tu l'as donné d'abord pour moi, Seigneur. Car c'est vrai que des fois, au lieu de regarder vers toi, je regarde ailleurs. Mais tu es clair dans ta parole, ayez les yeux fixés sur Jésus. Car c'est le seul moyen. Tu nous l'as montré aussi, Seigneur, dans ta parole. C'est comme lorsque ces démoniaques, qu'ils étaient à côté de Paul, il y avait quelqu'un qui l'a dit, dans le nom de Jésus, c'est Jésus que Dieu prêche, que Paul prêche, je vous ordonne de sortir de ces gens. Et il y a une voix qui est sortie. Il a dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Il voulait utiliser le moyen que Paul il utilisait, de sauver, de chasser les démons dans le nom de Jésus. Et Dieu, il est intervenu tout de suite. Jésus et Paul, ce n'est pas le moyen. Aide-nous, Seigneur, à mettre toute notre foi en toi. Car tu connais, Seigneur, ceux qui t'appartiennent. Tu nous dis que tu les appelles par leur nom. Tu as touché nos cœurs. Et nous désirons, Seigneur, te servir. Oui, notre chair est faible, Seigneur. Notre esprit est peut-être prêt, mais notre chair est faible. Et pour cela, nous avons besoin de toi, Seigneur. Et si nous nous confions sur quelque chose en dehors de toi, c'est un bâton qui n'apporte rien. Le seul bâton qui est utile, c'est lorsqu'il est utilisé par des mains qui possèdent ces qualités spirituelles. Interviens dans la vie, Seigneur, de chacun de nous. Toi qui sondes le cœur, toi qui connais le cœur de chacun de nous, tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais, Seigneur, ce que nous devons enlever. Et comme il a dit dans Ésaïe, tu es venu pour arracher. Oui, Seigneur, arrache toutes ces choses-là qui ne t'appartiennent pas dans nos cœurs. Ça peut faire mal, oui, ça peut faire mal, mais tout ce mal que nous recevons, c'est pour notre bien. Car si nous gardons ces choses-là, nous n'arriverons jamais à ton trône de la grâce. Interviens, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Le frère, il nous l'a dit, et la Bible, il nous l'a dit, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Que ton nom soit glorifié. Et nous te remercions d'avance à ces choses-là. Amen.